C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui tout le monde écoute la radio et combien de gens savent finalement que ce droit et ce choix qu'ils ont, il est né de luttes, de gens militants qui à un moment donné ont été à l'encontre du droit pour acquérir plus de droits.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
Prennent une telle ampleur, les fils partent avant les pères. Y'a trop de mères en sueur, quand les fils hittent la bêtise, sentent le même air en cœur. Le mangeur d'âme à chaque repas, sa preuve de nos rancœurs. Je l'entends toutes les nuits, las des fantômes qui la hantent, las de leurs complaintes, tellement que des fois elle en tremble. Par le sang de la haine, constamment ensemencée ou pas cadencé. Quand ce dernier chasse le vent hors des plaines, rien n'a changé depuis où je vis. Juif, catholique, musulman, noir ou blanc, fermez vos gueules, vous faites bien trop de bruit. Comme ces orages dans l'eau se mêlent à nos larmes et leurs chocs. Sur le sol aride, dans l'uranium, à voler l'âme. Je pas d'une ville au cimetière plus grand que la surface habitable. Même si paraît que de l'autre côté tout est plus calme, plus stable. Je veux pas qu'après le jour J, les survivants survivent sous néon, trop proche du néant. Car le soleil les prive de rayons, les artères pleines d'amère comme un caddie au géant. On charge, à la sortie, c'est tout dans les dents. Je crois que c'est dans l'air du temps. Chacun cherche son bouc émissaire, ouais. D'une simple vie ratée à la voix d'une bombe nucléaire. L'amour manque d'air dans leur monde, nous on suit fort, tout on supporte. Ça fait cerise et c'est les psys qui vont exorciser. Que quelqu'un me dise si j'ai des chances de voir enfin la paix exigée. Qu'un jour les abrutis s'instruisent, perchés sur ma plume, fête en ce moment. Observe ce bordel, de petites flammes montées au ciel. Pour elle, j'ai saigné ce gospel. Eras barre à tire d'elle, l'as de la sève qu'on tire d'elle. On clame tout ce qu'on aime, mais aucun de nous n'est fidèle. Jalousie et convoitise se roulent de grosses pelles. Quand les problèmes viennent, on règle ça à coups de grosses pêches. Et pendant ce temps-là, certains amassent des sous par grosses bennes. Devine qui est-ce qui creuse, mais avec des plus grosses pelles. Quand est-ce qu'on y arrive? Là où le bonheur désaltère, où le futur se construit sans cri, sans mec à terre, ni le central en fuite, rien sur le compteur GGR. Et finalement conscient qu'ici on n'est que locataire. Tu pars d'une location, regarde un peu ce qu'on en a fait. Quand le vieux fera des pâtes et mieux, on sera une France.
6h à Paris, 2h de moins en temps universel, à l'écoute de Radio France Internationale. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Paul Loncin-Spinelli. Bonjour Paul.
Bonjour Nemo Ampis, bonjour à tous. À la une, la course à la succession d'Antonio Guterres est lancée. Le secrétaire général de l'ONU doit être remplacé en fin d'année. 4 candidats ont déposé leur dossier de candidature et leurs auditions en public commencent aujourd'hui, à une période où la légitimité des Nations Unies est remise en question, notamment par l'administration Trump. Le président américain, pessimiste sur la prolongation de la trêve avec l'Iran, une délégation américaine est pourtant attendu dans les prochaines heures au Pakistan pour de nouveau pour parler de paix avec les Iraniens. Mais Téhéran prévient, nous n'acceptons pas de négocier sous la menace. Les ambassadeurs du Liban et d'Israël, eux, sont attendus à Washington jeudi pour de nouvelles tractations. Et puis 44 ans après la dernière visite d'un pape en Guinée équatoriale, c'est toujours Teodoro Obiang qui est au pouvoir. Léon XIV est attendu aujourd'hui dans le pays d'Afrique de l'Ouest où près de 75% de la population se déclare catholique. Décrédibilisé, confronté à une instabilité géopolitique, à une multiplication des conflits, l'ONU cherche un nouveau capitaine pour braver toutes ces tempêtes. Un nouveau secrétaire général doit être nommé puisqu'Antonio Guterres termine son deuxième mandat en fin d'année. Son successeur prendra ses fonctions le 1er janvier prochain. Et les auditions en public commencent aujourd'hui à New York. Elles se déroulent sur 2 jours. Les 4 candidats déclarés seront soumis pendant 3 heures chacun aux questions des 193 États membres et des représentants de la société civile également. Vincent Dublanche, ces 4 personnalités vont devoir prouver qu'elles ont les épaules pour redresser une institution usée.
Il y a d'abord Michelle Bachelet, c'est l'ancienne présidente du Chili. Elle a un gros réseau et maîtrise les usages diplomatiques. Elle a occupé 2 postes à l'ONU, notamment aux droits humains. Elle n'y a pas laissé un grand souvenir à la Chine et cela pourrait constituer un handicap. L'Argentin Rafael Grossi a fait l'actualité ces dernières années sur le nucléaire iranien, mais aussi sur le conflit en Ukraine, la menace sur les centrales, lui qui dirige l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle est moins connue, mais la costaricienne Rebecca Greenspan a des atouts. Elle maîtrise les crises, elle est économiste de formation, mais surtout à la tête depuis 5 ans de la CNUSED, la conférence onusienne sur le commerce. 3 latino-américains donc, et un africain, candidat au poste de secrétaire général, l'ancien président du Sénégal, Macky Sall. Pourra-t-il créer la surprise? Il n'est en tout cas ni soutenu par l'Union africaine, ni par son propre pays.
Vincent Dublanche, parmi les personnalités qui remettent en cause régulièrement la stature de l'ONU, il y a Donald Trump. Le président américain qui poursuit son bras de fer avec l'Iran, il jugeait hier auprès de l'agence Bloomberg qu'il y avait très peu de chances, selon lui, que la trêve soit prolongée. Elle expire en principe la nuit prochaine. Malgré cette déclaration, une délégation américaine doit normalement se rendre au Pakistan pour de nouveau pourparler avec l'Iran, sans qu'aucune date n'ait été communiquée. Le président du Parlement iranien, Mohamed Bagher Kalibaf, a de son côté prévenu hier que Téhéran n'accepte pas de négocier sous la menace, ajoutant « Nous nous sommes préparés à abattre de nouvelles cartes sur le terrain ». Washington, qui accueillera en revanche jeudi un nouveau cycle de tractations entre le Liban et Israël. Ça se passera au niveau des ambassadeurs, comme ça avait déjà été le cas la semaine dernière, ce qui avait permis d'aboutir à un fragile cessez-le-feu en place depuis maintenant 5 jours. Hier, l'agence de presse nationale libanaise a d'ailleurs rapporté une frappe de drone israélien dans le sud du Liban ayant fait 6 blessés ainsi que des tirs d'artillerie israéliens. C'est dans cette zone qu'Israël opère et c'est là aussi où a été tracée une ligne de démarcation, une ligne jaune entre les deux pays pour continuer à traquer le Hezbollah libanais. Mais cette situation, elle n'a pas vraiment été clarifiée pour autant par les autorités israéliennes, Guilhem Deltey.
Ni Benjamin Netanyahou ni l'armée israélienne n'ont précisé la durée correcte après cette occupation du Sud-Liban. Après la guerre de 2024, Israël avait conservé 5 postes sur le territoire de son voisin. Désormais, le président libanais, Joseph Aoun, qui a accepté l'ouverture de négociations directes avec Israël, réclame le retrait total de son pays. Ce lundi encore, l'armée israélienne a mis en garde les habitants de cette zone contre toute tentative de retour. La très grande majorité des localités ont été évacuées. Seules quelques communautés chrétiennes demeurent sur place. Les déplacés pourront-ils rentrer chez eux un jour ? Aucune perspective de retour n'a été évoquée. Autre interrogation, comment sera administrée cette zone ? Directement par l'armée israélienne, comme à Gaza, où une ligne jaune a aussi été dessinée, ou à terme, Israël autorisera-t-il le déploiement d'une force internationale ? Le pays est très critique de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies, actuellement présente dans cette zone tampon. Et Benjamin Netanyahou veut jouer de sa proximité avec Donald Trump pour évincer les autres acteurs, notamment la France. Guillaume Deltaï, Jérusalem, RFI.
Et selon le dernier bilan des autorités libanaises communiqué hier, la guerre avec Israël a fait 2387 morts. Des banques libanaises dans le collimateur de la justice française. Le parquet de Paris a annoncé hier avoir ouvert une enquête préliminaire à la suite de plaintes de 2 associations anti-corruption. Selon elles, en pleine crise financière de 2019, ces institutions bancaires auraient envoyé plusieurs milliards d'euros à l'étranger vers l'Europe. Et Marius Lafont, les investigations doivent désormais déterminer si une poignée de Libanais aisés a pu profiter de cet argent exilé.
D'après les plaignants, le système bancaire lui-même aurait été victime d'infractions massives jusqu'à l'effondrement. William Bourdon, avocat d'une des 2 associations anticorruption, à l'origine des plaintes.
C'est une opération de transfert en pleine crise financière, donc au moment le plus dommageable pour l'intérêt public libanais, de milliards et de milliards de dollars des comptes de 2 banques libanaises vers des filiales en France, au moyen de procédés plus ou moins opaques, pour mettre à l'abri des sommes absolument gigantesque au profit d'intérêts privés, la clientèle la plus fortunée, ceux de certains actionnaires.
Les autorités financières françaises étaient-elles au courant de ces transferts ? L'enquête devra le déterminer. Mais pour William Bourdon, l'effet le plus dévastateur, c'est la population libanaise qui l'a subi. Avec un si gros retrait de capitaux, les banques ne pouvaient plus rendre leurs économies aux petits épargnants.
C'est un blanchiment de masse qui intervient au prix de la paupérisation de centaines de milliers de personnes au profit d'une poignée de grandes fortunes, qu'ils soient privées ou publiques.
Depuis 2019, faute de pouvoir récupérer leurs économies, des milliers de Libanais ne peuvent plus payer leur loyer, leurs soins. En décembre 2025, le Premier ministre Nawaf Salam a annoncé un plan pour la restitution de ces sommes disparues.
Marius Lafont. 3 personnes ont été tuées par une frappe israélienne dans le sud de la bande de Gaza cette nuit. C'est ce que déclare la défense civile du territoire palestinien. La réponse d'Israël aux attaques du Hamas le 7 octobre 2023 a fait plus de 72 500 morts à Gaza. Ce chiffre inclut 770 Palestiniens décédés depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier. L'État malien, visé depuis hier par une procédure devant la Cour africaine des droits de l'homme des peuples. C'est une première. 3 organisations de la société civile, Trial International, l'Union panafricaine des avocats et la Fédération internationale des droits de l'homme accusent Bamako de violation des droits humains impliquant le groupe Wagner. Cette action en justice, elle se penche particulièrement sur les massacres de Hombori et de Moura survenus en 2022, commis par les forces armées maliennes et les paramilitaires. La tuerie de Moura avait fait plus de 500 morts selon l'ONU. 4e et dernière étape pour la tournée africaine de Léon XIV. Le pape va quitter ce matin l'Angola pour Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Il va y passer 3 jours pour y rencontrer les autorités politiques et religieuses, mais aussi le monde de la culture, visiter un hôpital psychiatrique ou encore une école du nom de son prédécesseur François, mort il y a tout juste 1 an. Éric Sénanque, le pape sera accueilli par une communauté catholique très fervente.
Cette dernière étape du voyage apostolique du pape s'effectue dans le pays le plus catholique de sa tournée, où près de 75% des 2 millions d'habitants ont embrassé le catholicisme. Pour Léon XIV, l'église locale est même considérée comme la colonne vertébrale du pays, très présente dans les universités ou les hôpitaux, et dont la croissance l'a fait passer en quelques années de 3 à 5 diocèses. Ce voyage intervient par ailleurs à l'occasion du 170e anniversaire de l'évangélisation du pays. L'ancienne colonie espagnole n'avait pas connu la visite d'un pape depuis 44 ans et Jean-Paul II, à l'époque, le président Teodoro Obiang était déjà en poste depuis 3 ans, signe de son omnipotence. Dans un pays où règnent l'arbitraire et l'autoritarisme, les paroles du souverain pontife seront très attendues. Lui qui n'a pas hésité lors de ses étapes précédentes à dénoncer les tyrans qui étouffent le peuple ou la corruption qui mine l'avenir des sociétés. Au mois de février dernier, les autorités avaient introduit une retenue sur le salaire des fonctionnaires et des militaires pour financer la venue du pape, provoquant de fortes contestations. Éric Sénanc, à Luanda, RFI.
La diplomatie cubaine confirme que des négociations ont bien eu lieu avec les États-Unis. Une rencontre s'est tenue récemment entre délégations cubaines et américaines à La Havane. Confirmation d'information de la presse américaine. La levée du siège énergétique a constitué une priorité absolue dans ces discussions. C'est ce qu'a indiqué hier le ministère cubain des Affaires étrangères, mentionnant donc ce blocus imposé par les États-Unis depuis le mois de janvier dernier. À moins de 2 mois de l'ouverture de la Coupe du Monde de foot, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, une fusillade mortelle a eu lieu sur un site mexicain ultra touristique hier, les pyramides de Teotihuacan. Une Canadienne a été tuée et 13 touristes étrangers ont été blessés selon les autorités. L'assaillant s'est ensuite suicidé. Et puis après 15 ans passés à la tête d'Apple, Tim Cook va tirer sa révérence. Celui qui était le successeur de Steve Jobs va quitter ses fonctions en septembre. L'annonce a été faite hier. Il sera remplacé par John Ternus. Loïc Piala revient sur le parcours de Tim Cook, dirigeant iconique de la marque à la pomme.
Un gestionnaire plutôt qu'un visionnaire. Tim Cook était très différent de Steve Jobs, l'icône qu'il a remplacé à la tête d'Apple. Avant d'en devenir le PDG, il avait modernisé la chaîne logistique du groupe, une référence aujourd'hui. Sous sa direction, en 15 ans, les revenus de la marque à la pomme ont été multipliés par 4 et sa valeur boursière est passée de 350 milliards de dollars à 4000 milliards. Certes, le dirigeant a profité d'un boom de la tech qui a bénéficié à d'autres entreprises, mais il a aussi supervisé avec succès le lancement de l'Apple Watch et des AirPods. Le géant californien fabrique ses propres puces électroniques désormais et ses services, Apple Pay notamment, lui rapportent 100 milliards de dollars par an. J'aime Apple de tout mon être. Diriger Apple a été le plus grand privilège de ma vie, a déclaré Tim Cook. L'échec de son casque de réalité virtuelle, très coûteux, et le retard de la firme en matière d'intelligence artificielle restent 2 tâches sur son bilan. Faire d'Apple un leader de l'IA sera l'un des grands défis de son successeur John Ternus, un nom qui circulait depuis plusieurs mois pour le remplacer. Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
Los Angeles, où il est pratiquement 21h12, 4h12 en temps universel.
RFI, toute l'actualité.
Paul Lancin-Spinelli.
Au programme du prochain quart d'heure sur Radio France Internationale, quand l'intelligence artificielle assoiffe toute une région du Mexique, Querétaro accueille de plus en plus de data centers, ces sites qui hébergent les données de l'IA. Ils consomment énormément d'eau, ce qui est donc très problématique dans cette région aride. La promesse d'investissements nombreux ne profite pas à la population locale. C'est ce que vous allez entendre dans le reportage de notre correspondante. Nous serons aussi en direct de Tbilissi, en Géorgie, où Donald Trump imprime sa marque. Une Trump Tower doit sortir de terre dans la capitale géorgienne et cela marque l'intérêt de l'administration des États-Unis pour ce petit pays du Caucase, proche de la Russie et sur la route de l'Asie. Et puis, Prince s'éteignait il y a 10 ans, jour pour jour. La star de la pop laisse derrière lui une discographie très riche et un style inspiré de son enfance à Minneapolis. On en parle avec notre invité culture. Google, Microsoft ou encore Amazon, les géants américains de la tech ont un petit faible pour Querétaro. Cette région mexicaine située à 3 heures de route de Mexico se transforme progressivement en pôle de data centers pour héberger des données de l'intelligence artificielle. Une spécialisation qui concentre plus de la moitié des investissements locaux, sauf que les habitants ne tirent que très peu de bénéfices de ce pari de l'IA et souffrent en prime de la gourmandise en eau de ces infrastructures informatiques. C'est un reportage signé Gwendolina Duval.
En périphérie de la ville de Querétaro, non loin de l'aéroport, dans la localité de La Esperanza, Montserrat Sanchez tient dans sa maison un petit restaurant où elle vend des tacos.
Regardez, le robinet est ici.
comme de nombreux habitants ici, la jeune femme ne reçoit l'eau courante que 2 ou 3 jours par semaine.
Ce dernier mois, on est resté 3 semaines sans eau. Je crois que c'est à cause de tous ceux qui viennent ici, les entreprises et les usines qui sont là.
Ça n'a pas toujours été comme ça ?
Non, on n'a jamais eu autant de problèmes. Je crois que cette année, c'est la pire. On s'habitue. De toute façon, on ne s'intéresse pas à nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Pendant que la population lutte au quotidien avec l'eau, l'industrie de Querétaro se développe à grande vitesse, surtout le secteur du cloud, le stockage en ligne. Au sein d'immenses hangars ultra sécurisés, les géants du web hébergent leurs centres de données. D'autres sont attendus dans les prochaines années, fruit d'un investissement de 12 milliards de dollars. Une aubaine pour le gouvernement local, malgré leur réputation d'être très gourmand en énergie et en eau pour leur système de refroidissement.
Ici, au Querétaro, ils utilisent beaucoup moins d'eau.
Marc Antonio Del Prete, secrétaire local du développement durable.
Ils utilisent un circuit fermé qui remplit un réservoir, n'est alors remplacé que l'eau perdue par condensation ou évaporation. Ils ne consomment pas de l'eau en continu. Selon les rapports que nous avons, leur utilisation est beaucoup moins intensive.
Tire une larme de tes yeux, après viens déclarer la paix. Tire une larme de tes yeux, après viens déclarer la paix. En silence, docilement, tu prends dans ses coups tout l'amour qui manque. Prends dans ses coups tout l'amour qui manque. Et si c'est ça, et s'y faire mal, c'est son rôle, alors on joue bien le nôtre. Oui, si c'est ça, oui, s'y faire mal. Si c'est son rôle, alors on joue bien le nôtre. Si c'est faire souffrir, nous faire souffrir, alors quand je serai grand, j'aimerais pas être père. Quand je serai grand, j'aimerais pas être père. Il dit qu'il m'aime de ses yeux. Ses mains ont déjà déclaré la guerre. Dit qu'il m'aime de ses yeux, mais ses mains ont déjà déclaré la guerre. En silence, docilement, j'apprends de ses coups, oui, apprends qu'il ment. J'apprends de ses coups, oui, apprends qu'il ment. Et si c'est ça, et s'y faire mal, c'est son rôle, alors on joue bien le nôtre. Oui, si c'est ça, oui, s'y faire mal. Si c'est son rôle, alors on joue bien le nôtre. Si c'est faire souffrir, nous faire souffrir, alors quand je serai grand, j'aimerais pas être père. 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 Et si c'est ça, et s'y faire mal, si c'est son rôle, alors on joue bien le nôtre. Oui, si c'est ça, oui, s'y faire mal, si c'est son rôle, alors on joue bien le nôtre. Si c'est faire souffrir, nous faire souffrir, alors quand je serai grand, j'aimerais pas être père. Quand je serai grand, j'aimerais pas être père.
Yeah. Prims parolier. Prims. Sourine à lobby, Bolo Baran à lobby. Bomaye musique. Yeah.
se chante et qu'on se connaît, mais en fait on se connaît pas. Je viens de là où on meurt de jalousie plus que de choléra. J'aime bien chanter pour les thunes, mais je suis le meilleur en peura. Rajoute un peu d'autotune que je devienne chanteur d'opéra. Nouvelle bombe, ouvrez les guillemets, arrêtez de filmer. J'ai fui le rap parce que j'étais le bon parmi les pygmées. Parfois on parle en rime, mais souvent on parle en chiffres. Pour eux je reste une énigme comme un ramadan juif. En Afrique je ne suis pas expat, je me donne en spectacle, extase. On a vendu du shit mais jamais d'exta. On perd avec honneur, polémique. Je sais ce que ça fait d'être un loser, je suis supporter des New York Knicks. Fais ton truc sur ton trajet, jamais pour les gens ici. On commence par t'encourager en te décourageant. Poto, ils nous disaient qu'on avait tort, on les a brouillards. Mon putain de rap n'est jamais mort, alléluia. Alléluia. Mon putain de rap n'est jamais mort, alléluia. Alléluia. Mon putain de rap n'est jamais mort, hein. Entre le soleil et le dark man, colère et les black man, je suis bipolaire, certains m'appellent Bruce, d'autres Batman. Pas de solution dans nos rues quand les condés frappent mal. À part chanter la révolution à la Tracy Chapman. Bien sûr que je m'échappe man, à des kilomètres, je fais du rap man. Noir musique, je n'ai pas de maître. Musique nègre, ça rend nerveux. C'est plus facile quand t'es blanc, demande à Val, demande à Oral, ça nous nègre feu. Il faut l'admettre, pas besoin que quelqu'un mette au Renoir pour gagner aux victoires de la musique de merde. Mentalité jamais prête, toujours coupable, je plaide rarement dans leur festival, donc on fait des concerts au bled quand même. De toute manière on punit, je veux ma peine sans modèle unique. La bannière des États-Unis, l'assassin de Carla Bruni. La galère n'est pas un progrès, faire de la merde n'est pas un projet. Je fais la guerre jusqu'à la prochaine, ma grand-mère est sur ma pochette. Guette pour quelques potes, c'est garant, parfois on se porte garant. Mais le rap c'est pas toujours marrant, fais gaffe, on n'est pas tes parents. Je vais bombarder dans mon bolide, placarder pas mes acolytes. On préfère plaider la folie plutôt que d'aider la police. Sur quelques coups c'est plus un flow, c'est une fontaine. Prochain album, déjà on écoute sur un iPhone 13, putain. On fait sa plaque indépendante, jeune débrouillard. Mon putain de rap n'est jamais mort, alléluia. Kata.
C'est fini là. Vas-y, mets l'autre face. T'as pas l'auto-reverse? Genre t'as pas l'auto-reverse? T'es une galère toi. Ce genre de... Ce genre de Zaïre 1989. Le buzz et les palabres, j'ai pas besoin de com. Refrain en lingala, j'ai pas besoin de code. J'ai beaucoup d'orgueil, tous les dollars je recueille. Mais un jour dans mon cercueil, j'aurai pas besoin de coffre. Pas besoin de cote, pas besoin de frime. Si Dieu m'escorte, j'aurai pas besoin de fric. Pour changer la donne, que les rages me pardonnent. Je suis seul pour cet album, je n'ai pas besoin de feat. Pas besoin de clic de colombe dans mon rêve. Pas besoin de flic de colon dans mon bled. Dieu congolais, nos richesses se terminent. Les diamants sont éternels, boy, pas là j'ai camine. Alors on crie, on prie. Être grand c'est aussi être incompris. C'est pour mes rustes et mes racines. 1989, auto-reverse dans la machine. Lyriciste bantou.